Bienvenue dans Questions de recherche, questions d'actualité, le podcast de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé. Quelle place occupent les centres de santé dans le paysage et les réformes des soins primaires en France aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, nous proposons dans ce podcast un échange avec les sociologues Julia Legrand et Laure Pitti, qui mènent à l'IRDES une étude sur les centres de santé engagés dans l'expérimentation d'un paiement en équipe de professionnels de santé, dite aussi expérimentation PEPS, de 2020 à 2024. Rappelons que cette expérimentation fait partie des nouveaux modes de rémunération collectif, alternatifs au paiement à l'acte, permis par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale à compter de 2018. Cette expérimentation vise à mettre en place un forfait de soins pour renforcer les dynamiques de coordination entre les professionnels de santé, notamment entre médecins et infirmières d'une même équipe. Julia, alors, votre étude constitue l'un des volets de l'enquête de l'IRDES sur les alternatives à la rémunération à l'acte en soins primaires, coordonnée par Cécile Fournier pour le volet sociologique et par Julien Mousquès pour le volet économique. Pour commencer, je me tourne vers vous, Laure. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un centre de santé et nous en faire un bref historique ?
Les centres de santé polyvalents sur lesquels notre étude a porté sont des structures sanitaires pluriprofessionnelles de proximité à but non lucratif. Ces centres dispensent des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquent à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins au sein du centre ou au domicile du patient. Leur domaine d'intervention est celui des soins de premier recours ou encore soins primaires, dits aussi de première ligne, dans l'organisation des soins. Les soins primaires recouvrent la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies et des affections courantes selon la définition qu'en a donnée l'Organisation mondiale de la santé dans la déclaration d'Alma-Ata en 1978. Les centres de santé polyvalents sont aussi appelés pluriprofessionnels et regroupent plusieurs professions de santé et paramédicales. Ceux sur lesquels a porté notre étude employaient ainsi des médecins généralistes, des infirmières, pour certains des orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes, ou encore des médiateurs et médiatrices en santé. Il s'agit de structures de soins à but non lucratif. Jusqu'en 2018, le Code de la santé publique imposait cette condition de non-lucrativité aux centres de santé. Ces centres sont gérés soit par des municipalités, aujourd'hui des collectivités territoriales, soit par des mutuelles, soit par des associations. En 2018, une ordonnance relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé a modifié ce code de la santé publique en autorisant des établissements de santé privés à but lucratif à gérer des centres de santé. On a pu en avoir un aperçu dans l'actualité récente, par exemple à travers certaines velléités du groupe privé Ramsay à racheter les centres de santé déficitaires de la Croix-Rouge.
Il semble que les centres de santé soient généralement moins connus en France que d'autres formes d'organisation des soins.
En effet, le système de santé français repose historiquement, pour les soins primaires, sur une médecine libérale, dont les fondements sont exposés dans la charte de 1927, avec notamment la liberté de choix du médecin par le malade, la liberté de prescription, la liberté d'installation, et jusqu'en 1960, la liberté de fixer le montant des honoraires pour les médecins. À partir de 1960, les tarifs de consultation ont été régulés par l'assurance maladie, en accord avec les syndicats de médecins. En parallèle de ce mode majoritaire d'exercice de la médecine, des dispensaires ont été créés dès la fin du XIXe siècle pour assurer la prise en charge sanitaire des indigents et la prévention des épidémies comme celle de tuberculose. Mais jusqu'aux années 1950, c'était principalement dans les hôpitaux qu'étaient pris en charge les indigents. Avec la réforme dite Debré qui instaure les centres hospitalo-universitaires entre 1958 et 1960, les hôpitaux deviennent les lieux à la fois de soins de haute technicité, d'enseignement et de recherche. Dès lors, et si l'on brosse leur histoire à grands traits, les centres de santé, héritiers des dispensaires, prennent le relais de cette prise en charge des indigents. Ils se distinguent de la médecine libérale par leur vocation médico-sociale, qui se traduit par leur surreprésentation en quartier populaire, par leurs tarifs conventionnés sans dépassement d'honoraires et par leur pratique systématique du tiers payant. Autre différence majeure avec la médecine libérale, les centres de santé fonctionnent sur le régime du salariat, là où la rémunération des médecins libéraux repose quant à elle sur le paiement à l'acte et dépend donc du nombre d'actes que les médecins effectuent. Ces centres de santé polyvalents sont aujourd'hui minoritaires dans le paysage des soins en France. On en comptait 582 en 2022, alors qu'on recensait à la même date 1747 maisons de santé pluriprofessionnelles libérales.
Je me tourne vers vous, Julia. Comment ces centres sont-ils financés ?
Ces centres de santé sont en partie financés par l'assurance maladie, un financement qui représente entre la moitié et les trois quarts de leur budget de fonctionnement. L'assurance maladie leur reverse le montant des actes que les professionnels de santé ont effectués. Le reste de leurs ressources provient de subventions diverses obtenues par les équipes sur appel à projet. Le modèle économique des centres de santé, qui est par ailleurs peu documenté dans le détail, apparaît cependant intrinsèquement déséquilibré dans un modèle de rémunération à l'acte. Cette situation s'explique par le fait que les centres de santé ont une large part de prévention et d'accompagnement des populations vulnérables dans leur activité. Or, ce type de prise en charge ne correspond à aucun acte codifié et ne sont donc pas remboursés par l'assurance maladie. C'est d'ailleurs ce que vient corriger l'expérimentation d'une rémunération au forfait de soins. La prise en charge des populations vulnérables découle de l'obligation qu'ont les centres de santé de soigner tout le monde, et notamment les personnes que certains médecins libéraux refusent, comme les patients sous le régime de la complémentaire santé solidaire ou encore de l'aide médicale de l'État. Cette situation conduit les centres de santé à accueillir des personnes plus éloignées des soins, aux faibles revenus, donc en moins bonne santé, qui cumulent souvent plusieurs pathologies, dont des maladies chroniques, ce qui demande un temps de consultation plus long, auquel là encore la rémunération à l'acte n'est pas adaptée. L'un des enjeux des réformes des soins primaires en cours, et notamment de l'expérimentation d'un paiement au forfait de soins, est ainsi de permettre de soigner mieux, avec une rémunération plus adaptée à l'exigence de prévention, d'éducation thérapeutique et de prise en charge de toutes et tous sans perte de chance.
Vous faites le constat de la fragilité du modèle économique des centres de santé. Cette forme d'exercice reste-t-elle pertinente aujourd'hui ?
Oui, les centres de santé ont une histoire et une situation géographique en territoire populaire qui leur permet de répondre efficacement à trois enjeux de santé actuels. Le premier est celui de l'augmentation des maladies chroniques qui fait partout dans le monde de la prévention et de l'éducation thérapeutique un impératif sanitaire. Le deuxième enjeu est celui de l'augmentation des inégalités sociales de santé et d'accès aux soins, particulièrement marquées en France. Selon les données de l'INSEE, en France en 2021, 37,5% de la population déclare un problème de santé chronique ou durable. Cette proportion passe à 45% parmi les personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Enfin, le troisième enjeu concerne le contexte des déserts de soins, c'est-à-dire qu'il manque non seulement des médecins, mais aussi d'autres professionnels qui contribuent à la bonne santé de la population. Et cela ne concerne pas seulement les zones rurales. Ces 15 dernières années, plusieurs départements de l'Île-de-France sont devenus des déserts médicaux urbains. Or, les centres de santé développent une médecine sociale, c'est-à-dire l'accès de toutes et tous à la santé, et ce type de médecine apparaît particulièrement important aujourd'hui, parce que les plus pauvres sont aussi ceux qui sont le plus privés des moyens de prendre soin de leur santé au quotidien. Par exemple, dans les quartiers populaires particulièrement enclavés, comme le sont les quartiers nord de Marseille, l'implantation de centres de santé a permis aux personnes les plus pauvres et sans moyens de transport individuel de bénéficier de soins de qualité. On sait aussi que les médecins généralistes les plus jeunes veulent travailler en collectif et avoir des horaires de travail régulés, qu'ils sont aussi attirés par le salariat, donc l'exercice en centre de santé présente de nombreux attraits pour eux.
D'autres pays s'appuient sur le modèle des centres de santé pour développer leur politique locale de santé publique et d'accès aux soins. Les centres de santé à la française peuvent-ils tenir ce rôle et quel est leur avenir, Laure ?
En effet, c'est le cas au Québec avec les centres locaux de services communautaires ou encore aux États-Unis avec le modèle des Patient-Centered Medical Home. En France aussi, les centres de santé peuvent pleinement tenir ce rôle du fait de leur activité à la fois curative et préventive et de leur pratique ancienne et bien rodée de coordination des soins. Mais la question, c'est la pérennisation de ce type d'établissement. Parce que dans le système actuel de rémunération à l'acte, ces structures ne peuvent pas être à l'équilibre budgétaire et certaines finissent par faire faillite. Par exemple, en ce moment même en Île-de-France, 7 centres de santé sont sur le point de fermer, notamment ceux de la Croix-Rouge.
Le mot de la fin, Julia ?
En résumé, les centres de santé à but non lucratif contribuent à réduire les inégalités d'accès aux soins en garantissant un service public de santé, de proximité, de qualité, mais leur modèle économique reste à consolider. Donc oui, il y a de réels enjeux à développer et à pérenniser ce type de structure si on veut des soins de qualité pour toutes et tous. Certaines municipalités ont déjà pris la décision de soutenir activement les centres de santé, par exemple à Grenoble. On voit donc tout l'intérêt de favoriser ces modes d'organisation des soins de proximité qui répondent aux enjeux d'accès équitable et de qualité, tout en correspondant aux aspirations d'une partie des professionnels de santé.
Podcast de l'IRDES numéro 3, enregistré en juillet 2024, propos recueillis par Anna Marek, réalisation Aude Sirvin.